La conquête du pain, partie 5, les denrées. Chapitre 1. Si la prochaine révolution doit être une révolution sociale, elle se distinguera des soulèvements précédents, non seulement par son but, mais aussi par ses procédés. Un but nouveau demande des procédés nouveaux. Les trois grands mouvements populaires que nous avons vus en France depuis un siècle diffèrent entre eux sous bien des rapports, et cependant, ils ont tous un trait commun. Le peuple se bat pour renverser l'ancien régime. Il verse son sang précieux. Puis, après avoir donné le coup de collier, il rentre dans l'ombre. Un gouvernement composé d'hommes plus ou moins honnêtes se constitue, et c'est lui qui se charge d'organiser. La République en 1793, le travail en 1848, la Commune libre en 1871. Imbu des idées jacobines, ce gouvernement se préoccupe avant tout des questions politiques. Réorganisation de la machine du pouvoir, épuration de l'administration, séparation de l'Église et de l'État, liberté civique, et ainsi de suite. Il est vrai que les clubs ouvriers surveillent les nouveaux gouvernants. Souvent, ils imposent leurs idées. Mais même dans ces clubs, que les orateurs soient des bourgeois ou des travailleurs, c'est toujours l'idée bourgeoise qui domine. On parle beaucoup de questions politiques, on oublie la question du pain. De grandes idées furent émises à ces époques, des idées qui ont remué le monde. Des paroles furent prononcées qui font encore battre nos cœurs, à un siècle de distance. Mais le pain manquait dans les faubourgs. Dès que la révolution éclatait, le travail chômait inévitablement. La circulation des produits s'arrêtait, les capitaux se cachaient. Le patron n'avait rien à craindre à ces époques. Il vivait de ses rentes, s'il ne spéculait pas sur la misère. Mais le salarié se voyait réduit à vivoter du jour au lendemain. La disette s'annonçait. La misère faisait son apparition, une misère comme on n'en avait guère vu sous l'Ancien Régime. « Ce sont les Girondins qui nous affament », se disait-on dans les faubourgs en 1793. Et on guillotinait les Girondins. On donnait plein pouvoir à la montagne, à la Commune de Paris. La Commune, en effet, songeait au pain. Elle déployait des efforts héroïques pour nourrir Paris. À Lyon, Fouché et Collot d'Herbois créaient les greniers d'abondance. Mais pour les remplir, on ne disposait que de sommes infimes. Les municipalités se démenaient pour avoir du blé. On pendait les boulangers qui accaparaient les farines. Et le pain manquait toujours. Alors, on s'en prenait aux conspirateurs royalistes. On en guillotinait 12, 15 par jour. Des servantes avec des duchesses, surtout des servantes, puisque les duchesses étaient à Coblenz. Mais on aurait guillotiné 100 ducs et vicomtes par 24 heures, que rien n'aurait changé. La misère allait croissant. Puisqu'il fallait toujours toucher un salaire pour vivre et que le salaire ne venait pas, que pouvaient faire 1000 cadavres de plus ou de moins? Alors, le peuple commençait à se lasser. « Elle va bien, votre révolution !» soufflait le réactionnaire aux oreilles du travailleur. « Jamais vous n'avez été aussi misérable !» Et peu à peu, le riche se rassurait. Il sortait de sa cachette. Il narguait les va-nu-pieds par son luxe pompeux. Il s'affublait en muscadin. Et il disait au travailleur « Voyons, à cette bêtise, qu'est-ce que vous avez gagné à la Révolution ? Il est bien temps d'en finir. » Et le cœur serré, à bout de patience, le révolutionnaire en arrivait à se dire « Perdu encore une fois, la Révolution. » Il rentrait dans son taudis et il laissait faire. Alors la réaction s'affichait, hautaine. Elle accomplissait son coup d'État. La Révolution morte, il ne lui restait plus qu'à piétiner le cadavre. Et on le piétinait. On versait des flots de sang. La terreur blanche abattait les têtes, peuplait les prisons, pendant que les orgies de la haute pègre reprenaient leur train. Voilà l'image de toutes nos révolutions. En 1848, le travailleur parisien mettait 3 mois de misère au service de la République. Et au bout de 3 mois, n'en pouvant plus, il faisait son dernier effort désespéré, effort noyé dans les massacres. Et en 1871, la Commune se mourait faute de combattants. Elle n'avait pas oublié de décréter la séparation de l'Église et de l'État, mais elle n'avait songé que trop tard à assurer le pain à tous. Et on a vu à Paris la haute gomme narguer les fédérés en leur disant « Allez donc, imbéciles, vous faire tuer pour 30 sous, pendant que nous allons faire ripaille dans tel restaurant à la mode. » On comprit la faute au dernier jour. On fit la soupe communale, mais c'était trop tard. Les Versaillais étaient déjà sur les remparts. Du pain, il faut du pain à la Révolution. Que d'autres s'occupent de lancer des circulaires en périodes éclatantes. Que d'autres se donnent du galon tant que leurs épaules en pourront porter. Que d'autres enfin déblatèrent sur les libertés politiques. Notre tâche à nous sera de faire en sorte que dès les premiers jours de la Révolution, et tant qu'elle durera, il n'y ait pas un seul homme sur le territoire insurgé qui manque de pain. Pas une seule femme qui soit forcée de faire queue devant la boulangerie pour rapporter la boule de son qu'on voudra bien lui jeter en aumône. Pas un seul enfant qui manque du nécessaire pour sa faible constitution. L'idée bourgeoise a été de pérorer sur les grands principes, ou plutôt sur les grands mensonges. L'idée populaire sera d'assurer du pain à tous. Et, pendant que bourgeois et travailleurs en bourgeoisie joueront les grands hommes dans les parlottes, pendant que les gens pratiques discuteront à perte de vue sur les formes du gouvernement, nous, les utopistes, nous devrons songer au pain quotidien. Nous avons l'audace d'affirmer que chacun doit et peut manger à sa faim, que c'est par le pain pour tous que la Révolution vaincra.